RFI 5h à Paris, il est 7h à Istanbul. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Charlotte de Rouen. Bonjour Charlotte.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous. En Turquie, l'opposition appelle au boycott des compagnies considérées comme proches du pouvoir et notamment d'une chaîne de café, La Turquie, où les manifestations s'enchaînent depuis l'arrestation du maire d'Istanbul. Au Sénégal, le FMI confirme qu'une partie de la dette du pays a bien été cachée par l'administration de Macky Sall pour un montant d'environ 7 milliards de dollars, confirmant ainsi les conclusions du rapport de la Cour des comptes sénégalaise. En France, l'avocat de Gérard Depardieu a plaidé la nullité de la procédure hier au premier jour du procès. L'acteur est notamment poursuivi, on le rappelle, pour agression sexuelle. En Allemagne, le parquet demande le renvoi devant le tribunal de 5 militants écologistes. Ils ont mené des actions spectaculaires ces dernières années, jetant notamment de la sauce tomate sur de grandes œuvres d'art. Des milliers de personnes mobilisées hier soir encore en Turquie pour dénoncer l'arrestation et l'emprisonnement du maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu, figure de l'opposition, est désigné comme candidat à la prochaine présidentielle. Les manifestations ont été interdites dans les trois plus grandes villes du pays, Istanbul, Ankara et Izmir. Plus de 1100 personnes ont été arrêtées depuis 6 jours. Cessez de troubler la paix de nos concitoyens par vos provocations, a dit hier soir le président Recep Tayyip Erdogan dans un discours télévisé. L'opposition, elle, appelle au boycott des chaînes pro-gouvernementales qui ne diffusent pas les images des manifestations, mais aussi d'une dizaine de compagnies considérées comme proches du pouvoir, et notamment d'une chaîne de café. Reportage de Céline Pierre Magnani, envoyée spéciale à Istanbul.
Erdogan, démission, c'est le slogan que répètent à l'envi des dizaines de milliers de manifestants rassemblés dans le quartier de Fatih, sur la place de la grande municipalité d'Istanbul. Özgür Özel, le chef de l'opposition, apparaît à la tribune. Un rendez-vous quotidien avec la foule qui est en train de devenir un rituel depuis l'arrestation du maire d'Istanbul le 19 mars. Aujourd'hui, il a promis de lancer un boycott contre les marques impliquées dans la censure médiatique des mobilisations.
J'aime toutes les sortes de cafés, je ne saurais que vous le conseiller. Buvez le type de café que vous aimez, mais surtout, ne buvez pas le café d'espresso lab. Nous n'irons plus dans les espresso lab, nous ne boirons plus son café.
En face, le pouvoir perd patience et les méthodes de dissuasion se multiplient. Lundi 24 mars, 8 photojournalistes ont été arrêtés lors de perquisitions à leur domicile pour avoir couvert les manifestations. Céline Pierre Magnani, Istanbul, RFI.
Et l'Allemagne, où vit la plus grande communauté turque à l'étranger, a condamné l'incarcération et la suspension totalement inacceptable du maire d'Istanbul. Berlin y voyant un mauvais signal pour la démocratie. Fin de citation. À Gaza, le comité international de la Croix-Rouge dénonce une attaque contre ses locaux à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a reconnu avoir tiré, mais sans savoir qu'il s'agissait d'un bâtiment de l'organisation. Une enquête doit être ouverte. L'attaque n'a pas fait de blessés. Une autre frappe, cette fois, a coûté la vie à un journaliste travaillant pour Al Jazeera dans le nord de la bande de Gaza. Sa voiture a été visée par un drone à Beit Lahia. Le syndicat des journalistes palestiniens dénonce un nouveau massacre contre des journalistes. Selon cette organisation, 206 journalistes et employés de médias ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza. Une partie de la dette sénégalaise a bien été cachée par la précédente administration. C'est ce qu'indique le FMI, le Fonds monétaire international, confirme les conclusions du rapport de la Cour des comptes publié le mois dernier. Entre 2019 et 2024, une partie de la dette a été cachée pour un montant d'environ 7 milliards de dollars. Le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Édouard Gemayel, est en visite depuis une semaine à Dakar. Alors que le programme d'aide du fonds est suspendu depuis que les nouvelles autorités ont révélé en septembre des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques sous l'ex-présidence de Macky Sall. Édouard Gemayel est au micro de notre correspondante Léa Lisa Vesterov.
Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la DEC pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Donc on peut parler de mensonge. mensonge.
Il y a une sous-estimation. Donc on a une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée.
Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez ?
25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détournés, c'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars.
Édouard Guémaïel, le chef de mission du FMI pour le Sénégal, avec notre envoyée spéciale permanente Léa Lisa Vesteroff à Dakar. La fin des pourparlers russo-américains en Arabie Saoudite. Après 12 heures de discussion à huis clos, à Riyad hier, la Russie et les États-Unis ont achevé leur discussion visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine plus de 3 ans après le début de l'offensive russe. La Maison-Blanche et le Kremlin publieront normalement ce mardi un communiqué commun pour résumer leurs négociations qualifiées dès le départ de difficiles par Moscou. En attendant, hier, une frappe russe a fait 90 blessés à Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Ce nouveau vol de Vénézuéliens expulsé des États-Unis hier, un avion a atterri à l'aéroport de Caracas avec à son bord 200 personnes. Au total, ils sont désormais plus d'un millier à avoir été rapatriés dans leur pays depuis les États-Unis. Des criminels pour Donald Trump, d'honnêtes travailleurs pour Nicolas Maduro. Alors qui sont-ils exactement ? Élément de réponse avec Alice.
Depuis février et la reprise des vols d'expulsion, 1119 migrants ont atterri à l'aéroport de Caracas depuis les États-Unis. Et il y a quelques jours, plus de 200 Vénézuéliens ont été transférés et incarcérés au Salvador car ils appartiendraient, selon Washington, au gang Tren de Aragua. Pourtant, depuis plusieurs jours, leurs familles, qui les ont reconnus sur des vidéos publiées par le président salvadorien Bukele, prennent la parole sur les réseaux sociaux pour les défendre.
Ce jeune homme que vous voyez s'appelle Francisco Javier García Cacique. Il est vénézuélien et il est barbier. Il a toujours travaillé comme barbier depuis qu'il a quitté le pays. Il n'a pas de casier judiciaire. J'aimerais qu'on ne nous mette pas tous dans le même sac en disant que nous sommes des membres du gang. Nous sommes là pour la voix de tous ceux qui sont détenus.
Dans un discours sur le tarmac hier, le ministre de l'Intérieur vénézuélien a affirmé que pas un seul de ses concitoyens de retour n'appartiendrait à une organisation criminelle. Pourtant, Donald Trump justifie les expulsions du fait de la dangerosité de ces migrants. Deux discours très différents, impossibles à vérifier, car ni Washington ni Caracas n'ont révélé les identités des expulsés et arrivés au Venezuela, tous restent muets. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et notez par ailleurs qu'un cabinet d'avocats a déposé un recours hier auprès de la Cour suprême du Salvador. Recours pour obtenir la libération d'une trentaine de Vénézuéliens emprisonnés dans ce pays d'Amérique centrale après avoir été expulsés là aussi par les États-Unis. Le président américain les accuse également d'être membres de gangs. RFI, 5h08 à Paris, première journée sous tension hier au tribunal, au premier jour du procès de Gérard Depardieu. Le comédien de 76 ans est accusé d'agression, harcèlement sexuel et outrage sexiste sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Hier, son avocat a longuement plaidé l'annulation de toute la procédure et Jérémy Assous a également demandé de nouveaux actes d'enquête.
Alors qu'il n'y aura aucun doute à l'issue de ces actes que la vérité sera établie, les seuls qui s'y sont opposés avec énormément de vigueur sont les plaignantes. Je n'ai jamais vu de plaignantes qui refusent et qui font tout pour que la vérité ne se manifeste pas. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons eu cesse de vous dire que ces accusations sont mensongères et inexactes. Si elles étaient fondées, elles ne craindraient pas de confronter leurs accusations avec un certain nombre de témoins, avec la configuration des lieux, avec des expertises médicales. Tout cela, elles le refusent. Tout élément objectif, incontestable et impartial est systématiquement refusé par les plaignants. Il n'y a qu'une seule raison pour cela, c'est qu'elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes.
L'avocat de Gérard Depardieu au micro de Laura Martel et Bertrand Éclair. Le président du tribunal doit trancher ce mardi sur cette demande de nouveaux actes d'enquête. Demande contestée par les parties civiles et le procureur. En Allemagne, des militants écologistes, peut-être bientôt, eux aussi devant la justice. À Munich, dans la très conservatrice Bavière, le parquet a demandé le renvoi devant le tribunal de 5 jeunes activistes du mouvement Dernière Génération pour participation à une organisation criminelle. Une première en Allemagne, Nathalie Versieux.
Dernière Génération est un mouvement contesté en Allemagne. Au cours des dernières années, ces activistes ont multiplié les actions coup de poing, se collant à la superglue sur les autoroutes pour bloquer la circulation ou jetant de la sauce tomate sur des œuvres d'art dans les musées pour attirer l'attention sur leur combat. À droite, ils sont souvent perçus comme extrémistes, voire assimilés à des terroristes. Pour le procureur de Munich, ils seraient membres d'une organisation criminelle comme les mafieux. S'il obtient gain de cause lors du procès qui se tiendra prochainement à Munich, le simple fait d'appartenir à Dernière Génération suffira pour écoper d'un minimum de 2 ans de prison. L'affaire fait grand bruit en Allemagne, où de nombreuses voix estiment au contraire que la lutte pour le climat relèverait de la désobéissance civile, voire du devoir civique. L'ONU s'est émue des poursuites dont font l'objet les militants climat en Allemagne. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Au Japon, un homme innocenté après 46 ans dans le couloir de la mort va recevoir plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts. Il a été déclaré innocent en septembre dernier du quadruple meurtre pour lequel il avait été condamné en 1968. Il a passé plus de 5 décennies en prison, dont 46 ans donc dans le couloir de la mort avant d'être libéré en septembre. Un puissant séisme de magnitude 6,7 s'est déclenché ce mardi dans l'océan Indien, près de la Nouvelle-Zélande. Le tremblement de terre peu profond a eu lieu à environ 160 km du premier village habité. Aucune alerte tsunami n'a été décrétée à ce stade. L'agence de gestion des urgences néo-zélandaises a appelé les résidents de la zone à éviter le littoral en raison quand même du risque de courants forts et inhabituels. RFI, 5h12 à Paris, 4h12 en temps universel.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
RFI, toute l'actualité.
Charlotte de Rouen.
À suivre dans les 20 prochaines minutes, c'est une visite qui est loin d'être anodine. La femme du vice-président américain se rend au Groenland, une visite jeudi, sans invitation officielle dans le territoire autonome danois que Donald Trump veut annexer. Aurélie Saada du duo Brigitte fait ses premiers pas au théâtre, un seul en scène dans lequel elle joue une femme abandonnée par son compagnon. Elle est notre invitée culture ce matin. Et puis de la musique aussi avec la chanteuse guadeloupéenne Celia Wa. C'est dans la playlist de RFI Musique. Mais d'abord, direction la Syrie. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, des dizaines d'usines de production de captagon ont été découvertes. Cette drogue de synthèse de la famille des amphétamines, dont l'ancien régime avait fait sa principale source de revenus, au point de devenir un narco-État. D'abord aux mains de groupes armés, puis du régime et de ses alliés, la Syrie est devenue en 10 ans l'une des principales plateformes de production de cette drogue revendue à travers le Moyen-Orient. Depuis sa prise de pouvoir, le président par intérim Ahmed al-Shara a promis de combattre ce commerce illicite. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Dès l'entrée du hangar, l'odeur des produits chimiques prend au nez. À terre traînent encore des dizaines de gants en plastique, des masques et lunettes de protection, une balance rouillée sur laquelle reposent des plaquettes de hashish, des sachets de captagon. Dans la zone, les usines de production ont été récupérées début février des mains des milices chiites du Hezbollah au terme de violents combats.
À l'intérieur de l'usine, on a bien sûr trouvé du captagon, toutes sortes de pilules et de drogues, mais aussi beaucoup d'armes, des armes à feu.
Depuis Zakaria Mahmoud Abdelkader et son unité, des soldats rattachés à l'administration en charge des frontières, ont repris le contrôle de la zone. Wadiana, c'est son nom, quelques kilomètres de territoire coincé dans un mouchoir de poche à la frontière libanaise. Les milices chiites du Hezbollah y travaillaient de concert avec le régime de Bachar al-Assad pour y produire du captagon.
Chaque bâtiment que vous voyez autour de vous était une usine de production. Nous avons tout fermé, ainsi que les points de passage à la frontière. C'est désormais plus compliqué de faire du trafic.
Dans les villages alentours, les habitants sont encore terrorisés, témoigne une habitante qui a souhaité rester anonyme.
On veut que le nouveau gouvernement nous protège. Les milices continuent de nous menacer. Ils nous appellent, nous envoient des messages, nous disent qu'ils vont nous tuer et nous égorger si nous parlons.
Nous avons essayé de vous prévenir, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Celui qui parle, je lui marcherai sur le cou sur la place du village.
Dans le sud de Damas, le quartier de Rukn ed-Din était l'un des plus touchés par le trafic. Des centaines de jeunes ont été poussés à la consommation jusqu'à sombrer dans l'addiction. Le régime les utilisait ensuite pour cibler l'arrestation de certains opposants, explique un commerçant du quartier.
Parfois, quand le régime cherchait à arrêter quelqu'un en particulier, il lui fouillait tout simplement les poches et mettait du captagon à l'intérieur. Ensuite, il l'emmenait au poste. Dans le quartier, les gens devenaient fous à cause de cela.
Avec les années, la violence a fini par gangréner ce quartier. Le Hezbollah, qui appuyait le régime dans ses combats contre les zones rebelles, venait y chercher de nouvelles recrues. Ce même commerçant a fait partie d'une de ces milices durant 2 ans.
Le Hezbollah avait l'habitude de donner à ses soldats une certaine quantité de captagon dans un petit sac. Le mot d'ordre était « consommer, puis combattre ». Les pilules qui n'étaient pas consommées étaient conservées puis revendues ici, dans le quartier.
Des rondes sont désormais organisées dans les ruelles de Rukn ed-Din par le service de sécurité générale du nouveau gouvernement. Impossible de totalement l'arrêter, mais le trafic a largement diminué, explique Ahmed Djatoubouche, en charge de la sécurité.
Les trafiquants n'ont plus autant de pilules à disposition qu'avant. C'est donc devenu plus difficile de vendre. Les policiers essayent également de sensibiliser les habitants sur le danger de ce trafic.
Au plus fort de sa production, en 2021, le marché du captagon en Syrie était estimé à plus de 10 milliards de dollars. Manon Chaplin à Damas, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos autres productions sur RFI.fr. L'épouse du vice-président américain se rendra au Groenland jeudi, un déplacement sans invitation officielle dans ce territoire autonome danois que Donald Trump veut annexer. Une visite en compagnie du conseiller à la sécurité nationale du président américain et du ministre de l'énergie. Otilia Ferret, vous êtes notre correspondante dans la région. Alors, comment réagit-on côté groenlandais?
Alors évidemment, cette annonce, elle a semé le trouble. La deuxième dame des États-Unis s'est en quelque sorte, enfin complètement à vrai dire, invitée au Groenland. Mutegede, le premier ministre de l'île arctique, estime que cette visite est, je cite, « très agressive, pas du tout innocente et constitue une ingérence étrangère et une démonstration de force ». Ça fait en effet des mois, en réalité des années, qu'il observe Donald Trump lorgner sur son territoire et on peut comprendre qu'il ne soit pas franchement emballé par cette visite surprise. Il a précisé qu'il n'y aura aucune rencontre. On rappelle aussi que Donald Trump a menacé une nouvelle fois, pas plus tard que le 4 mars dernier, de s'emparer de l'île d'une manière ou d'une autre, et ce, pour la sécurité internationale.
Et alors, que vient-elle faire au Groenland ?
Du tourisme, à en croire la Maison Blanche, et pour célébrer la culture et l'unité groenlandaise, c'est ce qu'ajoute l'administration Trump. Moment fort du séjour, la course nationale de chiens de traîneau du Groenland, où Chaven serait visiblement une grande passionnée. Outre cette compétition, il est prévu qu'elle visite de jeudi à samedi des sites historiques et qu'elle apprenne l'héritage groenlandais. Elle sera accompagnée de son fils et d'une délégation américaine.
Et cette visite, Otilia, elle n'est pas anodine, hein?
Pas du tout, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le premier ministre groenlandais lui-même. Surtout que pendant que la deuxième dame des États-Unis fait du chien de traîneau, Mike Waltz, le conseiller américain à la sécurité nationale, et Chris Wright, le secrétaire américain à l'énergie, se rendront sur une base militaire américaine dans le nord du Groenland. Difficile donc de parler de coïncidence, surtout à un moment critique pour le Groenland, territoire autonome danois, qui est en pleine négociation en vue de former une coalition gouvernementale. En effet, après la défaite de Mutegede aux élections législatives, le nouveau Premier ministre sera probablement Jens Frederik Nielsen. Lui non plus, comme 85% des Groenlandais, n'a aucune intention de devenir américain. Ces visites impromptues, y compris celles de Donald Trump Jr. en janvier dernier, tendent encore un peu plus la situation et pour le chef de la diplomatie danoise, ça montre, entre guillemets, un appétit inapproprié des Américains.
Otilia Ferret, merci pour toutes ces précisions. Notre invité culture du jour est Aurélie Saada. Aurélie Saada, que le public connaît grâce au duo Brigitte. Elle fait maintenant ses premiers pas au théâtre dans un seul en scène. Loin de son image solaire, la chanteuse livre le monologue d'une amoureuse abandonnée par son compagnon dans Personne d'autre de Boto Strauss. Aurélie Saada est au micro d'Elisabeth Le Carré.
Toi, mon homme, prends aujourd'hui une autre femme.
Dans mes yeux, il y a...
Je n'enverrai jamais cette laine, jamais.
Aurélie Saada, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît comme auteure, compositrice, interprète. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce texte de Boto Strauss?
Moi, j'ai du mal à dire non quand on me propose une nouvelle chose. J'adore les aventures et j'aime bien les voir ailleurs. Je dis souvent, je sais jamais si c'est le courage ou la peur qui me fait voir ailleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me pousse à l'aventure nouvelle. Je trouvais qu'il y avait une finesse, une complexité, une beauté dans ce texte, hein, incroyable. Et je me suis dit, allez, je me lance, je vais essayer.
Ce texte, c'est le monologue d'une femme que son compagnon a quitté pour une femme, une jeune femme, une très jeune femme. Et c'est un texte qui est plein de rage, de douleur, de sarcasme, plein d'affects très différents. Est-ce que c'est ça qui vous a touché ?
Moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu la complexité de sa situation. Elle l'aime encore, elle ne l'aime plus. Elle est détachée, elle est attachée. Elle est en colère, elle est triste, elle est amoureuse. Il y a quelque chose qui ressemble tellement à ce qu'on ressent dans la vie. Où va l'amour quand il s'en va ? C'est pour ça que le petit texte à la fin que j'ai écrit commence par ça, parce qu'on est pétri de questions, en fait, quand une histoire se termine.
C'est un texte qui balance tout le temps. Entre le présent, le passé, entre l'acceptation et la révolte.
Exactement. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ce texte. Je trouve qu'il y a quelque chose de très juste. Je me suis demandé d'ailleurs si Boto Strauss avait été cette femme ou s'il avait reçu cette lettre.
Je m'étonne qu'il ait été soudain capable de faiblir dans sa conscience exemplaire et de se comporter comme un jouvenceau désinvolte qui doit se mettre auprès de moi à l'école du souvenir.
Aurélie Saada, ce texte, il a une dimension très contemporaine en fait, ouais. Très universelle
très
même.
Universel. Mais peut-être parce que les sentiments sont très justes et du coup il y a quelque chose d'universel. Moi, j'ai l'impression parfois, quand j'ai commencé à l'apprendre, je me suis dit, mais c'est incroyable, ces phrases à tiroir, mais... Il a lu Lacan, c'est pas possible pour écrire des choses aussi compliquées.
Et vous chantez aussi beaucoup dans la pièce.
Eh oui, alors le metteur en scène m'a demandé de
étonnant.
Chanter, comme c'est amusant. C'est pas forcément ce qui est le plus facile du coup pour moi, parce que j'essaie de chanter pas comme une chanteuse, mais comme le personnage qui poursuit quelque chose, qui rapporte des souvenirs plutôt joyeux avec lui.
Est-ce que finalement ça parle d'amour, personne d'autre ?
Oui, ça parle d'amour, ça parle d'attachement. En écrivant cette lettre qu'elle n'enverra probablement jamais, elle fait de sa douleur quelque chose.
Qu'est-ce que ça fait d'être traversée par un texte aussi profond, aussi ambigu, aussi riche ? C'est une expérience très différente de la scène de la chanson.
Oui, alors déjà, les mots des autres, j'ai pas l'habitude de ça. Ce que je chante, c'est ce que j'écris, c'est mes histoires. Donc là, c'est vrai que... Apprivoiser les mots de quelqu'un d'autre, c'est une démarche particulière. On est dans le silence alors qu'on est dans le bruit, dans la musique. C'est vraiment très très différent. Et puis, on est vraiment sur un fil. On est vraiment sur un fil. Peut-être un peu comme le jazz d'ailleurs.
Ouais. Aurélie Saada, merci beaucoup.
Merci.
Personne d'autre se joue donc à Paris, au Théâtre Marigny, jusqu'au 27 avril.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Et Caroline Paré évoque aujourd'hui la tuberculose avec son invité.
Docteur Marie Jaspard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à PHP à Paris. L'OMS constate un rebond pour les cas de tuberculose en 2023, le dernier décompte. Comment l'expliquer ?
Alors, je pense qu'il y a un sous-diagnostic de la tuberculose dans l'ensemble. C'est plus compliqué à diagnostiquer que d'autres maladies qui sont plus simples. Et puis, la maladie est assez méconnue, malheureusement. Alors, on va en parler dans les jours à venir. C'est une maladie qui est lente d'évolution. Et donc, les gens ont du mal à consulter pour aller voir des médecins pour cette maladie-là.
Alors, précisément, quels symptômes doivent pousser à se rapprocher au plus vite d'une structure de santé pour faire ce dépistage de la tuberculose?
Alors clairement, c'est assez classique, c'est-à-dire que la tuberculose donne des sueurs nocturnes, donc vraiment quand on mouille les draps la nuit, on doit changer de t-shirt, changer de drap. Ça, c'est extrêmement classique de la tuberculose. Une toux aussi, alors dans les cas de tuberculose pulmonaire majoritairement. Parfois, dans cette toux, il y a des crachats et parfois même il y a du sang dans la toux. Et enfin, le troisième très gros symptôme, c'est la perte de poids. Quand vous perdez beaucoup de poids en un temps assez court, il faut vraiment s'inquiéter.
Merci, docteur Marie Jaspard. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on parle des appendicites et péritonite. Savoir distinguer ces deux affections, identifier les symptômes, inflammation ou infection. Dans quel cas une intervention chirurgicale est-elle nécessaire? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et place maintenant au choix des programmateurs de RFI Musique. Dans la playlist ce mois-ci, Celia Wa et son titre Démounage, où elle interroge l'histoire des Antillais. Celia Wa dans la playlist de RFI Musique. Retrouvez bien sûr tous nos autres titres à découvrir ce mois-ci sur RFI Musique.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI. Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
L'âge de la retraite fait débat en France, mais aussi ailleurs en Europe. Nous vous emmenons à Londres, où des femmes attaquent le gouvernement en justice, et à Lisbonne. Les Portugais doivent désormais attendre 66 ans et 9 mois avant de toucher une retraite, mais beaucoup travaillent bien plus longtemps pour boucler les fins de mois.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.